Formation biblique de disciples, cours numéro 8, la conversion. Section 2, nouvelle naissance, régénération, vie nouvelle. Première partie, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est une nouvelle création d'en haut. L'opération directe de la parole et de l'Esprit de Dieu sur notre vie nous changeant complètement alors que nous nous sommes véritablement repentis et tournés vers Dieu. Premièrement, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, sans espérance et sans Dieu. Deuxièmement, nous acceptons que Jésus soit mort sur la croix pour nous sauver par son précieux sang. Troisièmement, nous venons à Dieu dans la repentance, nous nous détournons de nos péchés, nous nous plaçons sous le sang de Christ et ainsi nous naissons de nouveau. Le Saint-Esprit fera de nous une nouvelle créature, c'est-à-dire une nouvelle création, en nous purifiant de nos péchés par l'autorité de la parole et par le sang de Christ qui fut versé pour payer le prix du péché. Quatrièmement, nous devons croire dans notre cœur et confesser de notre bouche que Dieu nous a pardonné nos péchés et nous a purifiés de nos iniquités, de nos transgressions. Voir Jean 1, versets 12 et 13, 1 Jean 3, versets 14 à 21 et versets 36, 1 Jean 5, verset 24, 1 Jean 6, verset 37, Romains 1, verset 16, Romains 10, verset 9 à 13, Actes 2, verset 38 et 39, Actes 3, verset 19, Actes 16, verset 3, Éphésiens 2, verset 1 à 10, 1 Jean 1, verset 9. La nouvelle naissance n'est pas de donner vie au corps, à l'âme, mais c'est simplement leur purification de tout péché et elle donne vie à notre esprit. Par grâce, au travers de la foi dans le sang de Jésus, Romains 3, verset 25, par la parole de Dieu, Jean 3, verset 5, Jean 15, verset 3, Éphésiens 5, verset 26, Jacques 1, verset 18, 1 Pierre 1, verset 23, par la puissance du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, verset 11 à 13, Tite 3, verset 5. L'expérience de la nouvelle création, c'est lorsqu'une personne est renouvelée dans la justice et la sainteté de Dieu, 2 Corinthiens 5, versets 17 et 18, Galates 5, verset 24, Éphésiens 4, verset 24. L'effacement des péchés qui nous séparaient de Dieu, Ésaïe 59, verset 2, Actes 3, verset 18, Actes 26, verset 18, Jacques 5, verset 19 et 20. L'adoption dans la famille de Dieu, Romains 8, verset 14 à 16, Galates 4, verset 4 et 5, Éphésiens 1, verset 5, Éphésiens 3, verset 14 et 15, 1 Jean 3, verset 8 à 10. 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous voyons que pour être une nouvelle créature, nous devons être en Christ. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes plus gouvernés par la vieille nature adamique, mais nous sommes nés par l'Esprit de Dieu. Nous n'avons plus la nature de notre vieux père Satan, mais nous avons la nature de Dieu notre Père, rendue possible au travers du sang de Jésus. Petit 1, nous sommes une nouvelle créature. Romains 6, verset 22. Libérés du péché, nous devenons serviteurs de Dieu. Nos fruits sont dans la sainteté et à la fin nous obtenons la vie éternelle. Colossiens 1, verset 12 et 13. Participant à l'héritage des saints, délivrés du pouvoir des ténèbres, transportés dans le royaume de Dieu. 2 Pierre 1, verset 3. Son pouvoir divin nous a donné toutes choses concernant la vie et la piété. En tant que nouvelle créature, nous sommes exhortés à vivre sobrement, sagement, d'une manière juste, pieuse, reniant les désirs de notre chair, les convoitises mondaines et l'impiété. Tite 1, verset 5, Tite 2, verset 12. Nous avons été créés selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Éphésiens 4, verset 24. Nous devons nous dépouiller du vieil homme. Cela prend place à l'enterrement, dans les eaux du baptême, mais nous devons appliquer ce dépouillement tous les jours et revêtir l'homme nouveau. Voir Colossiens 2, versets 11 et 12. Petit 2, comment le revêtons-nous? En combattant la connaissance de notre vieille vie. Petit A, en abattant les vaines imaginations, les faux raisonnements, voir 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Petit B, en renouvelant notre entendement, voir Éphésiens 4, verset 23, Colossiens 3, verset 10. Petit C, en rejetant toute impureté, toute souillure. Définition. Entendement, c'est l'ensemble des facultés intellectuelles, cerveau, intellect, intelligence, jugement, raison. L'intellect, c'est la faculté de connaître et de comprendre. L'intelligence, c'est la qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. La raison, c'est la faculté pensante et son fonctionnement. Elle permet à l'homme de juger, de connaître, d'agir conformément à des principes, de distinguer le bien du mal, le vrai du faux. La pensée, ce qui affecte la conscience, la réflexion, manière de voir, de juger propre à un individu ou à une collectivité. La réflexion, c'est la concentration de l'esprit sur lui-même, sur ses représentations, ses sentiments, ses idées. C'est une vertu qui consiste à éviter la précipitation dans les jugements, l'imprudence ou l'impulsivité dans la conduite. La conscience, c'est le sentiment naturel de notre être, de ses facultés et de ses actes. C'est un sentiment intérieur qui pousse chacun à porter un jugement de valeur sur ses actes. C'est un sentiment du bien et du mal. Petit A, en abattant les vaines imaginations, les faux raisonnements. Voir 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. Si nous avons péché et l'avons confessé, non seulement nous sommes pardonnés, mais aussi le péché est ôté, selon 1 Jean 1, verset 9. Notre seul besoin est de soumettre notre entendement à la parole de Dieu, afin qu'il puisse être renouvelé, lavé dans le domaine du péché. Voir Éphésiens 5, verset 26, Tite 3, verset 5. Nous regardons dans la parole et nous croyons ce qu'elle dit. Nous n'avons pas à essayer à nous-mêmes de remédier au péché, mais nous devons accepter ce que Dieu dit que nous sommes et sa provision pour nous. Alors nous agissons et marchons dans l'esprit. Romains 8, verset 6. Nous trouvons deux catégories de pensées. La pensée de la chair, c'est-à-dire la pensée charnelle. La pensée de l'esprit, c'est-à-dire la pensée spirituelle. La pensée charnelle apporte la mort. La pensée spirituelle apporte la vie et la paix. La pensée charnelle est inimitié contre Dieu. Elle n'est pas soumise aux lois de Dieu, ne peut pas plaire à Dieu. Aussi, nous voyons qu'en luttant par nos propres efforts pour essayer d'être comme Jésus, nous ne récolterons que le fruit de notre chair, mort et condamnation. Nous ne devons pas vivre dans la chair, mais dans l'esprit. Au travers de l'esprit, nous devons mortifier, c'est-à-dire faire mourir les actions du corps. Voir Romains 8, versets 12 et 13, Romains 13, verset 14. Nous sommes changés par l'esprit de Dieu, non par nous-mêmes. Voir 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous ne pouvons être en Christ et être gouvernés par notre vieille nature. Nous ne pouvons avoir une vie victorieuse avec un mélange, avec des compromis. Petit B, renouvelé dans l'esprit de notre entendement. Voir Romains 12, verset 2, Éphésiens 4, versets 22 et 23. Même si nous avons été créés dans la justice et la sainteté, nous réagissons à certaines choses, à certaines circonstances d'après les habitudes de notre vieille vie, et alors nous péchons contre Dieu. Ceci simplement parce que nous n'avons pas été renouvelés dans l'esprit de notre entendement, c'est-à-dire nos raisonnements. Nous devons renouveler notre intelligence et ne plus marcher dans la vanité de notre entendement selon notre propre compréhension. Si nous ne le faisons pas, nous serons retranchés de la lumière de Dieu. Notre entendement sera obscurci et nous serons étrangers à la vie de Dieu. Voir Éphésiens 4, versets 17 et 18. Nous deviendrons ennemis de Dieu, voir Colossiens 1, verset 21. Nous devons renouveler notre entendement car nous avons été réconciliés avec Dieu. Romains 12, verset 2. Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au siècle présent, mais à être transformés par le renouvellement de notre entendement dans la connaissance de celui qu'il a créé à la ressemblance de Christ. Colossiens 3, verset 10. Purifiés au travers de sa parole. Jean 15, verset 3. Nous voyons que pour expérimenter la nouvelle création, la réalité de la justice, c'est-à-dire pouvoir se tenir devant Dieu sans culpabilité, infériorité ou condamnation, nous devons accepter ce que Dieu dit que nous sommes par la foi et soumettre notre entendement à la parole afin qu'il puisse être renouvelé. Petit c, en rejetant toute souillure et impureté. Jacques 1, versets 21 et 22. Jacques nous donne le même enseignement. Il ne s'adresse pas à des inconvertis, mais à des chrétiens. Nous avons découvert que nous sommes libérés de notre vieille nature adamique, mais que notre entendement n'est pas renouvelé. Ceci est la raison de l'exhortation de Jacques. Notre entendement doit être lavé par la parole de Dieu. Voir Éphésiens 5, verset 27, Tite 3, verset 5. Si nous ne connaissons pas la parole, ce qu'elle dit de nous, notre position, notre héritage, nous ne reconnaîtrons pas les traits enflammés du diable. Éphésiens 6, versets 14 à 16, nous dit que nous devons avoir nos reins saints avec la vérité. 1 Pierre 1, verset 13, il est fait mention des reins de notre entendement. Ainsi nous voyons combien il est nécessaire de ceindre nos reins, de renouveler notre entendement avec la vérité. Alors que nous serons transformés un peu plus chaque jour, nous revêtirons l'homme nouveau. Nous deviendrons conformes à l'image de Christ. Voir Romains 8, verset 29. Nous devons être contrôlés par Dieu, remplis de son esprit. Dans 1 Jean 4, verset 8, nous voyons que l'amour est la nature même de Dieu. Dieu est amour. Nous devons nous revêtir de la nature de Dieu, ce qui signifie que nous devons aimer et demeurer dans son amour. Petit 3, comment demeurons-nous dans son amour? En gardant ses commandements. Selon Jean 15, versets 10 à 13, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, même jusqu'à la mort. Petit 4, comment nous aime-t-il? En nous donnant son Fils unique. 1 Jean 4, verset 9, Jean 3, verset 16. Romains 5, verset 5 à 8. Si nous ne sommes pas nés de nouveau et remplis de l'Esprit, nous ne pouvons recevoir ce grand amour. 1 Jean 4, verset 7. Nous devons nous soumettre pour aimer, ainsi l'égoïsme cessera de régner dans nos vies. Différentes façons d'exercer l'amour de Dieu. Premièrement, chercher l'intérêt d'autrui. 1 Corinthiens 10, verset 24. Deuxièmement, ne pas chercher notre avantage, mais celui d'un grand nombre. 1 Corinthiens 10, verset 33. Troisièmement, plaire à notre prochain pour son édification. Romains 15, verset 1. Quatrièmement, aimer nos ennemis. Luc 6, verset 27. Cinquièmement, faire du bien à ceux qui nous haïssent. Luc 6, verset 27. Sixièmement, bénir ceux qui nous maudissent. Luc 6, verset 28. Septièmement, prier pour ceux qui nous maltraitent. Luc 6, verset 28. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Nous avons les caractéristiques de l'amour agapé que nous devons avoir dans nos vies après que nous sommes nés de nouveau. Cet amour est mis dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet amour s'affermit alors que nous l'exerçons. Relâcher cet amour dans nos vies, c'est relâcher Dieu en nous, car il est amour. Cet amour conduira un homme hors de son égoïsme, de ses faiblesses, de ses échecs, et l'amènera dans la force, la stature de Christ. Cette expérience est possible pour nous. Nous pouvons avoir cette sorte d'amour par l'Esprit qui nous renforce dans notre être intérieur, étant enraciné dans l'amour. Ainsi, nous pourrons être remplis de la plénitude de Dieu. Voir Éphésiens 3, versets 17 à 19. Alors que nous croyons et marchons dans la voie de l'amour, nous demeurons en Dieu et lui en nous, et notre amour est rendu parfait afin que nous ayons l'assurance inébranlable au jour du jugement. Voir 1 Jean 4, versets 16 et 17. Petit 5, la réalité de la nouvelle naissance. L'homme, en bref, la Bible nous apprend que Dieu est l'auteur de la création et c'est lui qui créa l'homme. Nous sommes créés par Dieu et nous devons savoir que nous avons un corps, une âme et un esprit. Ce n'est pas seulement une invention de la théologie, mais vous pouvez le trouver clairement dans les versets suivants. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Les trois dimensions qui nous composent sont le corps, c'est l'enveloppe, la communication avec l'extérieur, les sensations. L'âme, c'est la personnalité, les émotions, la volonté, l'intelligence. L'esprit, et il est écrit avec une minuscule esprit, car différent de l'esprit de Dieu qui est écrit avec une majuscule. C'est la partie spirituelle, le lieu de communion, de conscience des réalités spirituelles, et c'est en fait dans notre esprit que nous sommes amenés à connaître Dieu. Dieu nous a donné la vie, et en grec, il existe trois mots pour désigner la vie. Le mot bios, B-I-O-S, c'est la vie physique naturelle, biologie, etc. Psyché, P-S-U-C-H-E, c'est la vie de l'âme, psychologie, etc. Zoé, Z-O-E, terme utilisé dans la Bible rendu par vie éternelle, qui désigne la vie de l'esprit, vie non créée, jarre de vie de Dieu. Dieu qui nous a créés désire être en relation avec nous. Lorsque Adam a péché en Éden, il n'est pas mort physiquement, mais son esprit s'est endormi et il s'est trouvé séparé de Dieu. Adam avait toujours un esprit, mais sa communion a été perdue. Parce que sa sensibilité spirituelle ne s'exerçait plus, il était contrôlé par son corps et son âme, et on peut imaginer qu'il vivait dans le péché, au point que Dieu fut obligé de détruire toute l'humanité à l'exception de Noé et les passagers de son arche. Cela préfigurait déjà le salut que Dieu avait pour l'humanité. Et Jésus viendra sur terre pour prendre nos péchés, mourir à notre place, ressusciter pour nous rendre la vie et nous réconcilier avec Dieu. Dieu a un but et un plan et il ira jusqu'à son accomplissement. Dieu désire communiquer sa vie à l'homme et être en communion avec lui. Et en y regardant de plus près, du début à la fin de la Bible, Dieu cherche à être en communion avec les hommes. Sans cette communion avec Dieu, l'homme ne peut lui être agréable. Il faut naître de nouveau. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à un responsable religieux, Nicodème, que Jésus fait cette réflexion. Le seul moyen valable pour voir le royaume de Dieu, c'est de naître de nouveau. Cela montre de façon on ne peut plus claire que tout autre moyen est vain et inutile. Tout homme a besoin de passer par la nouvelle naissance pour être sauvé et entrer dans une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Pourquoi? La Bible nous apprend que les hommes sont séparés de Dieu depuis la chute d'Adam en Éden. Vous connaissez l'histoire du premier péché. Du fait de ce péché, les hommes sont séparés de Dieu. Des alliances ont alors été conclues entre Dieu et des hommes, mais cela ne les a pas empêchés de se détourner de leur Créateur. Ils essayent de vivre loin de Dieu, sans pour autant réussir à combler le vide qui demeure en eux. Dieu seul peut le faire. Quelqu'un disait « il y a un vide en forme de Dieu ». La personne qui se prive d'une relation vivante avec Dieu réalise un jour qu'il y a une vie différente. C'est Dieu qui l'appelle. Ceux qui viennent alors à lui d'un cœur humble et sincère reçoivent une vie nouvelle car Dieu les accueille. Comment? Il n'est pas question bien sûr de renaître physiquement mais intérieurement par la puissance de l'Esprit de Dieu. Lors de la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient redonner vie à notre esprit. La relation avec Dieu est restaurée. C'est ce qui signifie être né de l'Esprit. Dans notre âme, siège de notre volonté, nos émotions et notre intelligence, commence aussi une œuvre de restructuration. Dieu commence en nous par son esprit une transformation intérieure. Dès lors, nous héritons du salut, de la vie éternelle, nous passons du royaume des ténèbres à celui de la lumière, nous devenons enfants de Dieu. Ce salut est offert et il s'agit alors d'en vivre les conséquences en se laissant diriger par le Saint-Esprit là où la chair guidait auparavant. Celui qui est né de nouveau est quelqu'un de nouveau. Il ne change pas en un clin d'œil, mais Dieu le place sur un chemin où il va évoluer, devenant toujours plus conforme à son modèle, Jésus-Christ. Une personne naît de nouveau lorsqu'elle reconnaît son péché, s'en repent et accepte au plus profond d'elle-même ce que Jésus a accompli pour tous les hommes à la croix. Il est mort pour nos péchés, nos maladies, nos difficultés. Tout est accompli, a-t-il dit. Puis il est ressuscité pour nous donner la vie. En acceptant cette œuvre pour nous, nous croyons et nous passons donc par cette nouvelle naissance. Par sa mort et sa résurrection, nous sommes en vie, nés de nouveau. Nous devenons une habitation de Dieu. Cette transformation intérieure que Dieu opère va se voir également à l'extérieur. Jésus à l'intérieur agit sur l'extérieur. La réaction qui a eu lieu à l'intérieur va se manifester à l'extérieur. Jésus dit qu'on reconnaît une personne à son fruit, dans Matthieu 7, verset 16. Or, ce fruit est la manifestation extérieure d'un état intérieur. La nouvelle naissance correspond au début d'un processus de transformation qui nous rend agréables à Dieu. Il en découle forcément un changement dans notre comportement et nos pensées. L'assurance du salut. La vie nouvelle se manifeste par une assurance du salut. Celui qui vient à Jésus reçoit non seulement le pardon des péchés, mais aussi la demeure du Saint-Esprit en lui. Deuxième partie, la régénération, la vie spirituelle. La régénération et la conversion paraissent se confondre. Elles sont presque simultanées. La conversion implique une résolution, une décision formelle de l'homme. La régénération procède de Dieu. Même converti, déterminé à appartenir à Dieu, l'homme ne pourra créer en lui l'être nouveau qu'il doit devenir. La régénération qui est en l'homme, l'inspiration du vouloir et la possibilité du faire, lui permet de marcher comme un enfant de lumière. La régénération est le complément divin de la justification. Elle intervient après la détermination de l'homme qui se donne et s'offre à l'action de la grâce. Elle est l'aboutissement de la conversion. Définition. La régénération. En grec, c'est le mot palingenesia. Palingenesia. C'est-à-dire un nouveau commencement, un renouveau, nouvelle naissance. La régénération. C'est un changement radical opéré dans les sentiments, les pensées, la volonté de l'homme qui est entré par la foi dans la communion de Jésus-Christ. Ce changement est produit par le Saint-Esprit dans l'homme pour lui donner une vie nouvelle. Son être moral et spirituel est transformé. La régénération est le point de départ de la vie chrétienne sous l'action du Saint-Esprit. Petit 1, la part de l'homme. La repentance, le baptême d'eau, sujet traité dans l'ABC du chrétien. Petit 2, la part de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un sujet traité dans l'ABC du chrétien. Dieu ne peut pardonner les péchés d'un homme que s'il les reconnaît et les condamne. Pour que Dieu œuvre dans nos vies, nous devons le laisser faire et lui en donner la possibilité. Nous ne pourrons renaître que si nous acceptons de mourir. Romains 6, verset 4. Petit 3. Pourquoi la régénération? La régénération nous donne d'être lavés. Petit a par le sang, voire titre 3, verset 5. Le bain de la régénération, c'est le bain dans le sang de Christ. Apocalypse 1, verset 5. Il nous a lavé de nos péchés par son sang. Petit b, par la parole. Éphésiens 5, verset 26. Lavé par la parole, par l'eau de la parole. Jacques 1, verset 18. La parole de vérité. La régénération est nécessaire à notre salut. Elle fait de nous une nouvelle créature. Voir 2 Corinthiens 5, verset 17. Elle est essentielle à la vision spirituelle. Voir Jean 3, verset 3. Le Seigneur crée en nous un homme nouveau. Voir Colossiens 3, verset 9 et 10. Éphésiens 4, verset 22 et 23. Jean 5, verset 24. Elle nous donne la vie éternelle. Elle nous ouvre les portes du royaume de Dieu. Elle nous évite de passer en jugement. Petit 4, les facteurs de la régénération. Nous les avons vus plus haut, l'Esprit, l'eau et le sang, 1 Jean 5, verset 8, et la foi. Jean 3, verset 5 à 8, l'Esprit. Le Saint-Esprit ressuscite spirituellement l'homme. Éphésiens 5, verset 26, l'eau. La parole, l'eau, renouvelle l'homme. Matthieu 26, verset 28, 1 Jean 1, verset 7, Apocalypse 1, verset 5, le sang. Le sang est essentiel à la rémission des péchés. Ceci dès le moment de notre confession et tout le temps que nous marchons dans la lumière. Jean 7, verset 38 et 39, la foi. Le pécheur ayant reçu la parole et accepté l'œuvre de conviction de l'Esprit croit de tout son cœur en Jésus-Christ. 1 Pierre 1, verset 23. La parole vivante et permanente de Dieu, la semence incorruptible agit en nous. L'eau. Tite 3, verset 5. Le bain de la régénération, le sang, et le renouvellement du Saint-Esprit, l'Esprit. Petit 5, condition absolue de la régénération. La repentance, la conversion, l'incarnation, c'est-à-dire l'acte par lequel le Fils de Dieu s'est volontairement revêtu d'un corps humain et de la nature humaine. L'homme ne peut se régénérer lui-même par ses bonnes résolutions. Le Saint-Esprit ne pouvait lui être donné que si une réparation était accomplie. Jésus s'est offert dans ce but. Le contact est rétabli. La vie peut circuler de nouveau entre le ciel et la terre. L'Esprit peut descendre et créer pour Dieu la nouvelle humanité en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ est nécessaire pour obtenir la régénération. Voir Jean 3, verset 16, 1 Jean 5, verset 1. La régénération de l'homme par l'Esprit dépend de l'attitude de ce dernier face à l'incarnation. Marc 7, verset 21 à 23. Jésus nous montre trois domaines de péché. La nature humaine, c'est-à-dire le cœur des hommes. L'âme humaine, c'est-à-dire les mauvaises pensées. L'action humaine, c'est-à-dire l'adultère, la débauche, etc. Lorsque le cœur est corrompu, la vie et la conduite de l'homme sont corrompues. Lorsque le cœur est pur, la vie et le fruit seront bons. Voir Matthieu 7, versets 15 à 20. C'est pour cette raison que l'homme devait devenir une nouvelle création morale, ce qui demandait un acte créateur qui fut accompli par le Fils de Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Jésus a accompli cet acte créateur en se donnant lui-même pour sauver ce qui était perdu. Voir Luc 19, verset 10. La souffrance de la croix n'est plus un obstacle dans l'humanité, mais un moyen de grâce. La régénération spirituelle est la révélation par l'Esprit. Il nous parle, Jean 16, verset 13. Il nous enseigne, Jean 16, verset 13. Il nous guide, Jean 16, verset 13. Il nous console, Jean 14, verset 16. Il nous aide dans nos faiblesses, Romains 8, verset 26. Il rend témoignage de notre adoption, Romains 8, verset 16. Jean 3, verset 8. Jésus, dans ce passage, donne à Nicodème les deux caractéristiques de l'opération de l'Esprit. Elle dépasse nos connaissances dans ses moyens et son origine, et elle agit par le mouvement et la vie. L'Esprit, comme le vent, dévoile sa puissance dans ce qui l'anime. Tout comme dans le naturel, l'homme entend le vent souffler. Dans le spirituel, l'homme né de nouveau entend la voix de l'Esprit. Comme Jésus a accepté volontairement de se dépouiller de sa vie céleste glorieuse, l'homme doit vouloir se dépouiller de sa vie terrestre pécheresse pour s'unir à Jésus dans sa mort. Alors le don du Saint-Esprit lui donnera la force d'atteindre la vie nouvelle qui fera de lui une nouvelle créature. Voir 2 Corinthiens 5, verset 17. Un être spirituel qui a revêtu Christ. Galates 2, verset 27. La régénération se modèle sur la vie de Christ et s'exprime dans la conscience du chrétien qui veut être un imitateur de Christ, son ouvrier, et qui veut vivre, marcher dans le dynamisme divin et être un pécheur d'hommes. Voir Matthieu 4, verset 19. 2 Corinthiens 1, versets 21 et 22. Les régénérés sont marqués du sceau de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit scellé à leur esprit humain, et possèdent les arts de l'esprit. Voir Philippiens 2, verset 13, Hébreux 8, verset 10, Hébreux 10, verset 16. La semence de Dieu en eux les garde chaque jour. C'est un réconfort, mais il implique un avertissement à la vigilance. Voir 1 Corinthiens 10, verset 12, au contrôle incessant de soi-même. Voir Romains 8, verset 9, 2 Corinthiens 13, verset 5. Quiconque, après avoir fait profession d'être chrétien, retombe dans sa vie de péché, montre par là non pas que l'esprit qui régénère est impuissant à garantir ceux qui lui ont ouvert leur cœur, mais que la régénération de cette personne n'était pas arrivée à maturité. Elle avait mal crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Selon Galates 5, verset 24, elle ne s'était pas gardée, selon 1 Jean 5, verset 18. Les régénérés qui vivent par l'esprit s'efforcent de marcher selon l'esprit. Ils réalisent, à mesure qu'ils avancent dans leur vie de nouvelles créatures, que la grâce de la régénération ne se perd pas. Jean 10, versets 27 à 29, Romains 8, versets 31 à 39. Conclusion. La régénération est accessible à tous. Elle produit chez tous des effets identiques au travers desquels on la reconnaît et qui se résument par le renouvellement des inclinations. La régénération est une révolution telle que l'homme se dépouillant de sa manière mondaine de sentir, penser, vouloir est amené à être en harmonie avec l'esprit et la volonté de Dieu, à connaître vraiment le point de vue de Dieu. Il voit sans juger les choses comme Dieu. Il aime ce que Dieu aime. Fin du cours. Questions sur le cours. Première question. Qui est l'initiateur de la nouvelle naissance? D'où vient-elle? En quoi a-t-elle un lien avec la naissance de Jésus? Justifiez votre réponse avec des versets bibliques. Deuxième question. Quelle est la différence entre la première naissance et la nouvelle naissance d'un homme? Expliquez-la avec l'aide de 1 Corinthiens 15 en ce qui concerne le premier Adam et le deuxième Adam. Troisième question. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Expliquez son processus d'action en l'homme. Pourquoi nous faut-il naître de nouveau selon Jean 3? Quatrième question. Qu'est-ce que la régénération, le début de cette vie nouvelle? Expliquez-vous. Comment agit le processus de régénération en l'homme nouveau dans le temps?